Étude de La Rochelle, le 8 mai 1986.
Par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autres sentiments. mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera le jugement. Mais moi, frère, si je presse encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors le scandale de la croix est anéanti. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Car vous, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas ta liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous soyez consumés l'un par l'autre. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, la pudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres.
Les frères de l'Assemblée locale ont choisi ce chapitre 5 des Galates pour en particulier qu'il nous soit bien montré, bien expliqué ce qu'est la liberté chrétienne, la liberté en Christ, ce qui sera en particulier le sujet de ce matin, les 15 premiers versets de ce chapitre, et ensuite montrer quelle est cette marche, cet ordre en quelque sorte, marcher par l'esprit, qu'est-ce que cela amène dans notre vie de tous les jours, cette marche par l'esprit, cette puissance pour glorifier notre Seigneur, notre Dieu dans notre vie de tous les jours. Nous constatons tous qu'il se produit des combats dans cette vie chrétienne et peut-être qu'il sera bon cet après-midi de bien nous montrer quel est le niveau de ce combat du croyant qui vit sur la terre en attendant d'être dans le ciel. Et aussi, nous parler du fruit de l'esprit, tous ces caractères que nous lisons là qui nous font penser tellement au Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre, que nous aimerions bien imiter mieux. Alors, certainement dans ce chapitre, nous allons trouver des enseignements pour nous aider, des enseignements pratiques. Mais ce chapitre commence comme une sorte de cri de joie. Tous les hommes aspirent à la liberté, à être libres. Et voilà que le croyant peut justement jouir de la liberté. Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté? Et puis, comment est-ce qu'on l'acquiert, cette liberté? Est-ce qu'il faut faire quelque chose acquérir cette liberté? Où est-ce qu'elle nous est donnée? Et par qui? Et qu'est-ce qu'il faut en faire de cette liberté? Est-ce qu'il est possible de l'abandonner? Est-ce qu'il est possible de mal l'utiliser, cette liberté en Christ? Alors c'est le sujet que nous allons traiter ce matin. Mais si ce chapitre commence par un cri de joie, il est la conclusion de l'exposé des premiers chapitres. L'apôtre Paul a parlé pendant 4 chapitres et il est bon que nous ayons une vue d'ensemble de cet épître aux Galates avant de commencer ce chapitre 5 pour bien comprendre ce qui nous est expliqué. Et nous avons demandé à notre frère Georges André de nous faire un plan de cet épître pour que nous puissions bien comprendre la suite de notre étude dans la journée.
Cet épître aux Galates comporte donc 6 chapitres. Les 2 premiers chapitres sont surtout les expériences de l'apôtre Paul lui-même, comment le Seigneur qu'il avait choisi dès sa naissance pour être son serviteur, mais qu'il a transformé le chemin de Damas, comment le Seigneur a conduit les choses pour l'amener à être non pas consacré, mais reconnu par les apôtres qui étaient à Jérusalem. Et depuis le chapitre 3, il donne alors l'enseignement doctrinal, chapitre 3 et 4. Sans insister sur le vocabulaire, il est quand même intéressant de voir qu'une trentaine de fois dans cette épître, le mot « loi » revient. Mais par opposition, 7 fois la croix, 7 fois la grâce et 16 fois l'esprit. 30 et 30. Approximatif. Autrement dit, libération de la loi et de son jour par la croix, par la mort du Seigneur, qui a montré la grâce de Dieu, qui a permis à la grâce de Dieu de se déployer et qui nous a donné son esprit pour être l'énergie de la vie nouvelle. Seulement quelques versets ici et là qui sont à peu près le message essentiel de l'Épître. Au chapitre 3, verset 6. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Verset 9. Ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Verset 14, la bénédiction d'Abraham parvient aux nations, dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Trois pensées essentielles. L'exemple d'Abraham a cru Dieu, cela lui fut compté à justice. C'est le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Dans une nuit étalée, Abraham, à l'appel de Dieu, sort de sa tente, regarde les étoiles. Et Dieu lui dit, ainsi sera ta semence. Ah, le Seigneur n'est pas dans le temps. Ainsi sera ta semence. Et Dieu a vu que dans le cœur d'Abraham, il a cru ce que Dieu lui avait dit. Il y a eu des épreuves ensuite. Mais Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Alors il en est de même aujourd'hui. Ceux qui sont sur le principe de foi sont bénis avec le croyant Abraham. Ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi, c'est-à-dire, sont sous malédiction. La justification par la foi. Parce que l'on croit la parole de Dieu, on croit au Seigneur Jésus, on est reconnu juste. Non pas par les actes, par les œuvres, mais par la foi. À une œuvre accomplie par le Seigneur Jésus lui-même. Et on reçoit l'Esprit, verset 14, par la foi, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Il y a ensuite trois termes essentiels. Je vais parler des promesses, verset 16, répété au verset 17, de l'héritage et du don. Ça caractérise la grâce. La loi était une alliance. Deux parties font une alliance. Dieu est médiateur. Moïse était le médiateur. Dieu bénira son peuple s'il observe la loi. C'est l'alliance de Sinaï. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. C'est la loi. Mais la promesse, c'est Dieu qui promet. La foi reçoit la foi. L'héritage, c'est Dieu qui donne l'héritage. Et son enfant reçoit l'héritage. Il n'y a rien à faire pour recevoir l'héritage. Il n'y a pas à le gagner. Mais l'héritage est reçu à la main du testateur. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Et l'héritage, verset 18, est sur le premier pas. Si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus sur le principe de promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Promesse, c'est Dieu qui promet. L'homme ne s'engage pas, mais reçoit. L'héritage, c'est Dieu qui donne l'héritage. Il y a la mort du testateur, et on reçoit l'héritage. C'est un don de Dieu. Opposition entre loi et grâce. Verset 22. L'Écriture a renfermé toutes choses sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Jésus-Christ fût donnée à tous ceux qui croient. La promesse n'était pas seulement pour Abraham, mais la promesse, cette disposition de la part de Dieu, la promesse sur le principe de foi en Jésus-Christ est donnée à ceux qui croient. Tout est don de Dieu, tout est grâce de Dieu. Comme pour Abraham, une promesse qu'il a acceptée et reçue dans son cœur, il a fallu l'expérience d'Abraham, mais il a reçu la promesse. Eh bien, ceux qui croient à la promesse de Dieu, la promesse de la vie, la promesse au principe de la foi en Jésus-Christ, alors la promesse est donnée à ceux qui croient. Et au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Fils de Jésus. Tous fils de Dieu par la foi dans le Fils de Jésus. C'est le principe pour la montagne, n'est-ce pas? Et le verset au chapitre 4, au verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant à Abba, de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et ses fils héritiers aussi. C'est le verset central de Dieu. Tu n'es plus esclave, mais fils. L'esclave est sous les ordres d'un maître, l'esclave doit obéir, l'esclave doit suivre les ordres qu'il reçoit. Le fils a une autre relation avec son père. Bien sûr, le père va l'enseigner, va le former, va l'éduquer, va le discipliner s'il le faut. Mais c'est le fils du père. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et tout croyant qui est au Seigneur, tout enfant de Dieu, a besoin de réaliser que Dieu, comme il a dit, nous a donné l'adoption. Il a fait de nous des fils. Plus esclaves, comme il donne la loi, la servitude, toujours, mais fils. La loi, c'est comme une carapace que l'on met sur l'homme et il va obéir et tenir. La grâce, la relation de fils, c'est dans le cœur. L'esprit nous est donné, puissance de la vie que nous avons reçue. Et alors, de l'intérieur vient l'obéissance par amour. Tu n'es plus esclave, mais fils. pour illustrer la servitude d'une père et la liberté de la grâce d'autre part, la fin du chapitre 4 nous parle des deux femmes d'Abraham, Agar, la servante, on connaît le récit de la Genèse, mère d'Ismaël, Agar, enfant pour la servitude. C'est une servante, son fils, à le rendre serviteur. Sarah, c'est l'épouse. Sarah enfante un fils pour la liberté d'un fils avec son père, Isaac, le fils. Illustration pour montrer d'un côté servitude, de l'autre liberté du fils. Et alors, le chapitre 5 commence avec ce verset qu'on vient de lire. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme, ne soyez pas de nouveau retenus sous un jour de servitude. Nous a placés dans la liberté de fils vis-à-vis du Père. Et trois versets dans l'Épître aux Romains qui résument. Et cela, Romains 6. Romains 6, verset 22. Maintenant qui revient tant de fois dans l'Épître aux Romains. Maintenant, ayant été affranchis du péché, libérés de la puissance du péché, asservis à Dieu, vous avez votre vie dans la sainteté. Non pas pour être laissé à nous-mêmes, ensuite libérés, passer dans la liberté quant au péché, mais asservis à Dieu. Et au chapitre 7, au verset 4. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, libéré de la loi, mais pour être un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Pas pour être laissé à nous-mêmes, mais pour être celui qui est ressuscité, unir à celui qui est ressuscité cette vie nouvelle, cette vie de résurrection qui nous est donnée. Voilà la liberté. Et enfin, au chapitre 8 et verset 2, la loi de l'Esprit de vie dans Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, une nouvelle loi, une nouvelle puissance qui agit en nous, l'Esprit de vie, qui m'a libéré, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Libéré de la loi, libéré de la puissance du péché, mais pour être un homme. Pour être à servir Dieu, pour marcher à nouveau début. Alors Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Ne retournez pas un jour de servitude, mais cette liberté, alors au verset 13, car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, c'est la suite du verset 1. Vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous le mal. Et nous verrons dans le paragraphe la foi opérant par l'amour. Non plus la crainte, non plus redouter le châtiment, mais par amour, servir l'un l'autre, par amour, être un autre Christ ressuscité, par amour de se servir la liberté dans l'amour.
De cette épître, que c'est une épître de circonstances, nécessitée par les faits qui sont bien établis clairement dans le début de cette lettre, dans cette province de Galatie, où se trouvent des populations issues de la Gaule et qui avaient reçu l'Évangile prêché par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Ces assemblées sont en majorité constituées de gentils. Mais comme il en est dans bien des cas relatés dans les Écrits, dès que l'Évangile a pénétré quelque part, dès que la grâce de Dieu a opéré, l'ennemi est à l'œuvre pour tenter, pour essayer de ruiner l'œuvre de Dieu. Et il le fait dans ces jours-là par les docteurs judaïsants, comme on les appelle, qui dans ces assemblées de gentils viennent prêcher la nécessité de la loi d'être circoncis, d'obéir à la loi conjointement à la grâce qu'ils ne mettent pas de côté, mais dans un but d'uniformité, de fraternité avec les chrétiens d'entre les juifs. Ces docteurs disent, il serait bon que vous aussi, croyants d'entre les gentils, vous conserviez l'essentiel de la loi, puisqu'elle a été donnée par Dieu dans les jours d'autrefois, pourquoi la méconnaître, surtout que vos frères d'origine juive en maintiennent les éléments essentiels. Ce raisonnement pouvait paraître séduisant, mais il anéantissait dans son cœur même l'évangile de Paul, d'où la réaction de ce cher serviteur de Dieu dans cette lettre, établissant tout d'abord qu'il n'est en rien moindre que les autres apôtres, car on disait de lui, vous voyez, Paul est différent des douze, il n'a pas suivi le Seigneur, il ne connaît pas tout, il ne nous a pas fait connaître toutes les pensées de Dieu, de sorte qu'on minimisait la valeur de ce service, de cet apostolat de l'apôtre, et il va montrer que loin d'être subordonné aux douze, il l'a reçu directement du Seigneur, sans intermédiaire et sans que personne en soit un instrument quelconque. Paul va affirmer avec force son apostolat, l'ayant reçu du Seigneur lui-même, pour montrer que ce qui était relatif à la loi est un ministère de mort et de condamnation, et qu'il est impossible d'associer ce qui relève de la servitude, comme nous venons de l'entendre, à la liberté chrétienne. Je souhaite affirmer que la bénédiction peut comporter quelque chose de la malédiction. C'est un assemblage impossible à envisager. La loi, d'ailleurs, n'a jamais pu produire la vie. S'il eût été donné une loi qui avait le pouvoir de faire vivre. Mais la loi ne peut pas donner la vie. Elle est au contraire un ministère de mort et de condamnation. Elle lie sur le pécheur le péché qu'il a commis et attire sur lui les foudres de la loi. La loi ne me donne aucunement la vie. Elle ne me donne aucune puissance pour accomplir ce qu'elle demande de moi. Étant donné ce que je suis dans ma nature, je m'oppose dans ma nature à ce que la loi exige de moi. Je refuse de faire ce qu'elle commande, ce qu'elle demande. Et hélas, j'accomplis ce qu'elle défend. C'est une loi sans exception. Comme le gland qui tombe du chêne en vertu de la loi de la pesanteur se dirige vers le centre de la terre, la chair demeure la chair. Elle ne peut pas être vaincue par aucune ordonnance. La loi ne me donne aucunement la possibilité d'atteindre la vie. Elle ne me donne aucune force pour faire ce qu'elle demande, et surtout, elle ne me donne pas un objet pour mon cœur, ce que la grâce fait. C'est une épître de circonstance, a-t-on dit, car Paul va donc établir de la façon la plus formelle le terrain de la grâce, de la justification, montrant qu'elle est obtenue comme un don, comme il vient d'être rappelé si clairement, comme un don de la grâce de Dieu, et qu'il est impossible de se tenir sur un pied de loi pour en obtenir quelque parcelle que ce soit. Épître de circonstance écrite 2 années avant l'Épître aux Romains, où dans l'Épître aux Romains, l'apôtre va faire un exposé complet, magistral, de ces vérités relatives à la justification, à la délivrance de l'homme, du joug de la loi, du péché, du vieil homme en lui. De toute manière, la vérité est exposée dans sa plénitude dans l'Épître aux Romains. Ici, c'est un cas particulier. Les croyants des assemblées de Galatie sont des gentils que l'on veut que l'on veut placer sous la loi, d'où cet enseignement si remarquable que Paul va donner pour réduire à néant toutes les prétentions de ces judaïsants et leur montrer et nous montrer que nous obtenons tout par grâce, qu'il n'y a rien de l'homme, que Dieu a tout prévu, que Dieu a tout donné pour notre salut, pour notre vie, pour notre délivrance et pour la joie que nous pouvons connaître dans la marche et la liberté chrétienne.
L'affranchissement. L'affranchissement, c'est une libération. C'est un changement d'état. On était autrefois esclaves, maintenant on est homme libre. Et le secret, c'est la puissance de Christ. C'est le résultat de son œuvre. Seigneur, il dit en Jean 8, je pense, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pratiquement tous les hommes sont esclaves, par nature. Pierre nous le dit dans sa seconde épître, de manière extrêmement puissante. On a promis la liberté à tous les hommes, 2 Pierre 2,19, ceux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Tous les hommes par nature sont morts, sont pécheurs, sont esclaves de Satan, sont sous le joug de la chair, de la loi, du péché et du monde. Voilà le terrible état dans lequel nous sommes par nature. Christ est mort pour nous libérer, pour nous affranchir. Simplement dans cet épître, la première chose que nous trouvons, c'est que nous sommes libérés de l'emprise du monde. Comment? Par la mort de Christ. Chapitre 1, le verset 4, il nous a retirés du présent siècle mauvais. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. Le présent siècle mauvais, ici, c'est le monde dans son caractère organisé, loin de Dieu, ayant Satan comme chef. Quelle est la puissance libératrice du monde? C'est la croix de Christ, chapitre 6, verset 14. Qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Nous sommes ensuite libérés de la loi. Pour les croyants gentils, qui est tombé sous le joug des judaïsants, ou plus encore pour les croyants tirés dans son peuple terrestre, juif, la loi représentait les ordonnances autrefois données par Dieu à Moïse, qui représentait le joug d'une servitude. Saint Sir André a rappelé tout à l'heure que en Romains 7, nous sommes libérés de ce joug de la loi. Et l'exemple que l'apôtre Paul prend dans Romains 7 est très intéressant. Dans la pensée divine, un homme ne peut être devant lui marié qu'à une seule femme. Si un homme a 2 femmes, il est adultère. Il y a 3 personnes présentées dans cette scène de Romains 7. La loi, le croyant, moi-même, et Christ. Par nature, le croyant est lié à la loi. Et la pensée de Dieu, c'est d'unir le croyant à Christ. Ce n'est pas la loi qui meurt, Christ est déjà mort. Il faut donc que je meure moi-même, en Christ et avec lui, pour être pratiquement libéré de la loi. Donc, dans les ordonnances de la loi, la libération est par la mort de Christ. On peut penser que ce joug de la loi n'est pas quelque chose d'important pour nous maintenant. Si. Parce que si la loi, les commandements de Moïse ne sont pas... Le légalisme peut être un danger immédiat pour vous. Tout ce qui, dans la vie chrétienne, représente un assujettissement à des ordonnances, tout ce qui pratiquement réduit notre liberté en Christ, est un danger, le légalisme. Donc il faut que nous mourions en Christ, nous appliquions pratiquement la mort de Christ dans cette action de la loi en nous, pour nous en libérer. Ensuite, il y a le péché. C'est Romains 6. Autrefois, nous étions attachés à une race qui est celle d'Adam. Adam, chef de race, entraîne avec lui, dans sa descendance, tous ceux qui sont nés de femmes, nés sous la loi, nés dans la chair. La seule exception, c'est Christ. Christ devient, par son œuvre, chef d'une nouvelle race. En mourant en Christ, en appliquant la puissance de la mort de Christ, nous changeons de race. Nous sommes maintenant liés à notre chef de Christ. C'est l'expression donnée dans Romains 5, verset 12 à la fin. Ensuite, il y a la chair. La chair, c'est facile à trouver d'après notre vie chrétienne de tous les jours. C'est la puissance qui nous conduit à faire des choses que Christ ne peut pas approuver en nous. Quel est le secret? Nous tenir nous-mêmes pour morts au péché, mais pour vivre à Dieu dans Christ Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes morts et que votre vie est cachée avec le Christ en vous. Dans le secret, pratiquement, comment pouvons-nous le faire? Portant toujours partout dans le corps le mourir de Jésus. Afin que la vie aussi Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Le Colossiens 3, Romains 6, Devant un reste ensuite la loi qu'on a seule. De toute manière, Christ peut nous placer dans la liberté, nous a placés dans la liberté pour nous affranchir.
Il y a un point essentiel. Il faut saisir en rapport avec le principe légal, la loi, vouloir faire quelque chose. Même comme croyant, comme notre frère vient de le dire, on fait des ordonnances, on ne prend pas, on ne goûte pas, on ne touche pas. C'est pour acquérir un mérite. Tout l'essentiel du principe légal, c'est acquérir un mérite, c'est mériter quelque chose. Bon, combien cela est essentiel dans le catholicisme de nous. Il faut avoir des mérites. Bien sûr, Christ est mort pour nous. Mais en plus de cela, il faut acquérir des mérites par sa conduite, par annoncer le messeur, etc. Le principe légal, c'est acquérir un mérite. Le Fils, lui qui a la vie de Dieu, est placé dans la liberté, a bien acquérir des mérites. Il a reçu tout. Et alors, par amour pour celui qui l'a fidélé, il lui obéit, il marche dans sa gloire, il cherche à plaire au Seigneur, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et dans notre chapitre, la foi opérant par l'amour, pas par la foi, ou pas pour acquérir un Dieu, mais qui opère par amour. Servez-vous l'un l'autre par amour. Tout différent du même. Mais c'est tellement inné en nous, même comme croyants, que nous cherchons à acquérir des vies. Ah, moi je perds toutes les revenus de la santé. Je n'en manque point. Moi je suis mal.
Je me réclame quelque chose.
Mais non. Si je vais là où le Seigneur a promis sa présence, c'est par amour pour lui. Si je vais au culte pour rendre grâce au Père, c'est par amour pour le Père, et par amour pour celui qui nous a amené au Père. Je vais écouter la parole de Dieu, ou je vais prier avec les frères et sœurs, parce que l'amour du Seigneur nous conduit à notre premier Seigneur, la quête de notre vie. Et c'est tellement, même subconscient, cette idée de mérite, qui est liée au principe de mérite. Alors l'apôtre vient dire, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, vous acquérez vos mérites. Vous êtes circoncis, c'est la loi, c'est ce que Dieu a prescrit déjà à Abraham, Christ ne vous profitera de rien. Proteste à nouveau de tous les circoncis qu'il est d'accomplir tout à l'heure. Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, pour que vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la loi. On ne peut pas rêver Dieu dans le sens de mériter sa grâce, mériter sa bénédiction. On est déchu de la grâce, parce que la grâce donne. On répond à la grâce. par l'amour et non pas par le désir de guérir les filles.
Quand une âme est réveillée par l'Esprit de Dieu, si elle n'a pas Christ devant elle, inévitablement elle se place sur un régime de contraintes, de lois, d'ordonnances. Et quelqu'un a dit, toute contrainte, tout devoir, quel qu'il soit, tout devoir imposé, c'est ma prière. Il est impossible que j'accomplisse pour plaire à Dieu, pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il est impossible que j'acquière par mes mérites quoi que ce soit. Il y a une phrase dans l'introduction de notre Bible, la page 8, elle mérite d'être citée. C'est vers le bas de la page, nous la recommandons, d'ailleurs tous ces paragraphes sont hautement instructifs et rédigés avec une clarté, une précision qui n'échappe pas à un lecteur attentif. Les dernières phrases, l'avant-dernier paragraphe, c'est ceci. Le principe de la loi est que l'acceptation de la personne dépend de sa conduite. C'est bien ce qui vient d'être présenté par notre frère. La grâce, au contraire, fait ce qu'elle veut, agissant en bonté selon la nature et le caractère de celui qui fait grâce. Au contraire, sur le principe de la loi, mon bonheur, en un mot, dépend de ce que je suis à cet égard, de ce que je suis envers lui. Mais toute contrainte, tout devoir imposé est inévitablement ma ruine. La grâce, au contraire, donne. Elle m'établit sur un terrain de liberté dans la faveur de Dieu, sauf qu'aucune loi ne peut faire.
Chrétien, foi, une vie qui est de cette vie, elle est Christ. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas une amélioration de la nature, de la première création. Elle est morte quand. Et cette nouvelle création, elle est Christ lui-même dans un frère. Christ n'est pas sous la loi, comme ressuscité d'entre les morts. Et nous sommes un avec lui. Et notre vie, c'est la sienne.
À revenir sur la question des mérites dont on a parlé tout à l'heure. Si il est dans notre cœur désirer rechercher le mérite, et cela amène à une satisfaction de soi, une sorte de vantardise intérieure, bien sûr, comme le pharisien qui pouvait dire je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi je jeûne le reste, moi je donne la vie. Bien, cela peut très bien arriver pour nous, pour chacun d'entre nous, dans le sein du rassemblement. On a dit, on peut se glorifier d'être à toutes les réunions, se glorifier de ceci, se glorifier de cela. Et on voit comme l'apôtre emploie des expressions justement pour rejeter cela, afin que personne ne se glorifie, dit-il dans les Éphésiens. On se trouvait par grâce, par la foi. Et encore, dans les Romains, où est la rentrée ? Notre salut gratuit, où est la rentrée ? Et ici, il ira encore un peu plus loin, ne soyons pas désireux de vaine gloire. Voilà une vaine gloire à rechercher en nous-mêmes, bien sûr, nous savons ce qu'il faut dire, nous n'en parlions pas, nous ne le dirions pas, mais dans nos cœurs, pas dans nos cœurs. Pourquoi cette question du légalisme, il est très important pour nous de l'examiner sérieusement.
Nous trouvons dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, qui a été signalé tout à l'heure à notre attention, un exemple remarquable que le Seigneur donne lui-même en rapport avec la loi et la grâce. On a vu tout à l'heure, en Jean 8, 34, que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et lorsque le Seigneur se trouve en présence de la femme surprise en adultère au début du chapitre 8, nous comprenons que le Seigneur est venu pour apporter la liberté de la grâce. La liberté, non de faire le mal, non là de faire notre propre volonté, ce qui n'est que l'esclavage de Satan, mais le privilège de faire la volonté de Dieu. Et ici, les accusateurs de cette femme, eh bien, ils sont aussi coupables, cette femme. D'une manière ou d'une autre, la loi les condamnait. Cette femme aussi. Mais le Seigneur apporte quelque chose de supérieur à la loi. Il apporte justement la grâce et le pardon. Nous avons donc là les deux principes qui sont bien représentés, illustrés par cet épisode du Seigneur en présence de cette femme qui était l'accusée et de ses scribes et de ses pharisiens qui l'accusaient.
C'est assez frappant ce que nous avons pu entendre, en particulier concernant ce qui peut paraître inné dans l'homme, à savoir le besoin d'acquérir quelque mérite. Alors on peut se poser la question de savoir d'où vient ce fait qu'il y a cette conscience intérieure, ce besoin d'acquérir quelque mérite. Si nous regardons quelque peu l'univers qui nous entoure, nous considérons que cet univers est réglé par des lois. La mécanique céleste obéit à des lois précises. Si nous regardons la vie, que ce soit la vie végétale, la vie animale, nous apprenons que tous ces organismes vivants obéissent à des règles, à des lois. Si nous remontons à l'homme, nous voyons que l'homme aussi obéit à des règles, à des lois. Et cette loi qui régente l'homme naturel, cette loi, nous la trouvons d'abord en Romains 2, elle est inscrite dans son cœur. L'œuvre de la loi est écrite dans le cœur de tout homme. Ces lois lient l'homme à son Créateur, lient l'homme à Dieu. Ce sont elles qui établissent les bases de sa responsabilité. Eh bien, ces lois sont d'abord écrites dans... L'œuvre de la loi est écrite dans le cœur de tout homme. Nous lisons cela en Romains 2. Donc, pour comprendre et saisir ce qu'est la loi, avant d'avoir été écrite sur des tables de pierre, cette loi a été écrite, cette loi qui régente les relations entre l'homme et Dieu, c'est une loi qui est comme, si nous pouvons dire, innée. C'est ce qui définit ce qu'est l'homme, créature. Il ne peut échapper à ses lois. Et c'est ce qui conditionne d'ailleurs sa vie. Eh bien, ces lois sont écrites dans le cœur de tout homme. C'est pour ça que cette œuvre de la loi est écrite dans le cœur de tout homme. C'est pour ça que l'homme, pour garder ou pour essayer de retrouver une relation avec son Créateur, il y a cette notion de mérite, de faire quelque chose. Alors, nous comprenons, et c'est ce qui nous est dit dans ce Épître aux Galates, en Christ, la loi prend fin. La loi était notre conducteur jusqu'à Christ. Et nous échappons à cette loi, si nous pouvons dire, naturelle, qui ne fait qu'attester que tout homme est pécheur devant Dieu. Et en Christ, donc, la loi prend fin comme principe de justification, comme principe de vie et comme principe de marche. Et elle est remplacée par une expression sur laquelle nous passons souvent peut-être vite, de Romains 3, la loi de la foi. C'est une nouvelle loi à laquelle tout homme peut volontairement s'assujettir et par laquelle il obtient, par la grâce donc et par la foi, non seulement il est justifié, non seulement il peut marcher et plaire à Dieu et glorifier Dieu. Eh bien, dans ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates, donc Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Voilà donc un chrétien, un homme qui volontairement se soumet à la loi de la foi. Et il bénéficie de toutes ces immenses bénédictions. Cet homme est juste, cet homme peut marcher maintenant dans cette liberté, puisque comme on l'a rappelé, il est libéré de deux choses, d'une source et d'une puissance qu'il animait auparavant, le péché. Et deuxièmement, il est libéré d'une règle. Cette règle, c'était la loi.
Dans Éphésiens 4, il y a un verset simplement qui illustre la différence entre la loi et la marche par l'amour. Verset 28, c'est un exemple. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dans les commandements de la loi, tu ne déroberas pas. Mais maintenant, celui qui est au Seigneur, eh bien, il ne dérobera pas, il ne volera pas. Il est conduit par le Seigneur. Mais c'est bien plus. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, il va subvenir à ses besoins au lieu de prendre ce qui appartient aux autres. Mais voilà la grâce, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il ne va pas travailler de ses propres mains pour dire, ben maintenant, moi je gagne ma vie, je ne vole plus. Non, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est un simple exemple. Mais voilà l'amour qui résulte de cette vie nouvelle. Il va travailler de ses propres mains, il y a des exhortations à subvenir à ses besoins, ceux de sa famille, les Thessaloniciens en particulier. Mais ici, afin qu'il ait de quoi donner. Alors, ce n'est pas la loi. La loi dit tu ne dérobes pas, tu ne voles pas. Mais la grâce opère dans le cœur pour qu'on donne.
Il faut bien remarquer, d'autre part, que la loi n'est pas abolie. L'autorité de Dieu est établie dans la loi. Elle est d'ailleurs bonne si quelqu'un en use légitimement. Le Seigneur, dans ce que l'on a appelé le sermon sur la montagne, parle de la loi, parle du sabbat. Le sabbat sera mis de côté entièrement. C'est la fin de tout ce que les Juifs retenaient jusque-là. Une nouvelle économie allait commencer. Mais le Seigneur n'a pas mis de côté la loi. Au contraire, il maintient l'autorité de Dieu dans cette loi et il montre que les disciples du royaume, sans découvrir la source de la vie et de la force par laquelle ils accompliront ce qu'ils demandent, le Seigneur montre que ce qu'il dit à l'égard des principes du royaume de Dieu va au-delà de la loi. La loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la mesure de l'amour que j'éprouve pour mon prochain, c'est la mesure de l'amour que j'ai pour moi-même. Mais que dit le Seigneur en relation avec cette nouvelle économie de la grâce de Dieu? Non plus tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est un autre exemple à côté de celui que vient de donner notre frère. Je donne ma vie pour mes frères. C'est bien plus que de m'aimer, d'aimer mon frère comme moi-même. Mais je n'ai plus le moi comme objet. Je n'ai plus le moi qui est dominante en moi et qui est le centre de mes pensées, mais j'aime mon frère de telle manière que je donne ma vie pour lui. Alors nous retenons que la loi n'a pas été abolie, mais Christ est la fin de la loi pour tout croyant. Notre frère Müller a rappelé tout à l'heure Romains 7, la loi elle a reçu à l'égard du coupable que j'étais toute la sanction, toute la satisfaction qu'elle désirait. Parce que Dieu m'attribue à moi-même ce qui est arrivé à Christ, notre substitut, celui qui a pris ma place sur la croix et qui a supporté, qui a subi toute la malédiction de la loi qu'elle prononçait à l'égard du péché. De sorte que maintenant, je regarde la croix et je dis, voilà, Christ est mort sur la croix, Dieu me dit que je suis mort avec Christ, et Christ a supporté tout ce que la loi exigeait de moi. Il a supporté toute la sanction que la loi prononce à l'égard du péché. Et je vis de nouveau maintenant avec Christ ressuscité, j'en ai fini avec ce jour de la loi. Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant.
Deux raisons sont données. Peut-être que ces croyants judaïsants
veulent se placer eux-mêmes, placer les autres sous le signe de la circoncision. Au chapitre 6 des Galates, les deux raisons sont d'une part avoir une bonne apparence dans la chair, et d'autre part échapper au scandale de la foi, échapper à la persécution causée par le fait que nous sommes, pour ainsi dire, sous le signe de la foi. On échappe au propre du monde si on se place sous le signe, sous la livrée du monde. Et c'est en fait être circoncis, c'est faire cela. La circoncision était d'ailleurs donnée autrefois à Abraham et non pas à Moïse. Le Seigneur le dit en Jean 7, sur la même page où nous avons lu quelques versets tout à l'heure du chapitre 8. La circoncision était des pères et non pas de Moïse. Elle avait été donnée autrefois comme signe d'une mise à part pour Dieu d'un peuple choisi. Elle a été associée ensuite aux ordonnances de la loi données au peuple par Moïse. Cette circoncision, nous n'avons pas à l'appliquer à la lettre, mais certainement nous en avons à déterminer la puissance spirituelle. Ce qu'elle signifie pour nous maintenant, c'est Colossiens 2 qui nous dit. Un exemple. Autrefois, sous la loi, certaines bêtes étaient impures, on ne pouvait pas y toucher, pas les manger. En particulier, la viande de porc était interdite. On se rappellera que la loi est la règle parfaite du bien dans l'homme. Pourquoi la viande de porc ne devait pas être mangée par les Israélites? Parce que c'est la viande la plus difficile à digérer, celle qui se contamine le plus facilement. Dans l'État chrétien, et particulièrement au Moyen-Âge, on a translaté, on a transféré cette ordonnance de la loi, et on a été beaucoup plus loin en empêchant les fidèles de manger de la viande. Or, toute viande est bonne à manger si elle est sanctifiée par la prière. Et dire autre chose, c'est un enseignement de démon. L'apôtre n'y va pas par quatre chemins, à la Timothée 4. Nous n'avons donc pas maintenant à faire de différence, à nous abstenir de manger de la viande, à faire de la différence entre les aliments. Nous avons à prendre toutes choses comme nous étant données par le Dieu de bonté. Mais le signe entre les animaux purs et impurs, l'ordonnance, le caractère spirituel de la loi, nous avons à le maintenir. Les bons poissons, par exemple, avaient des écailles et des nageoires. Les nageoires pour remonter le courant, des écailles pour nous prévenir contre le danger de l'environnement de ce monde. Alors, quel est le signe de la circoncision maintenant? Elle est spirituelle, cette circoncision. C'est la circoncision du Christ. C'est Gilgal. La première chose que le peuple rencontre au-delà du Jourdain, Josué 5, c'est la mort. Les couteaux de pierre ont circoncis le peuple. C'est la mise de côté de la chair, justement. Ce qui nous donne une bonne apparence à nous-mêmes et vis-à-vis du monde, nous allons y mettre la mort de Christ. Et nous avons accepté l'opprobre de la position de ceux qui ont le signe de Christ sur eux, au milieu d'un monde qui a rejeté Christ, qui l'a mis à mort, et si Christ revenait, on le rejetterait de la même façon. Voilà le scandale de la croix. Eh bien, pour nous, ce qu'il faut accepter, c'est le signe de la circoncision, c'est-à-dire le signe de la mort de Christ. Deux signes sont donnés en rapport avec la mort, en Colossiens 2, et tout l'enseignement de la suite du chapitre 2 est basé sur ces deux signes. D'un côté la circoncision, et de l'autre côté le baptême, l'un et l'autre qui nous ramène à la puissance de la mort de Christ. En Colossiens 2, trois groupes de dangers nous sont signalés, qui complètent ce qui nous est présenté en Galates 5, dans les versets 16 à 23. Et on y trouve bien les choses qui ont déjà été présentées par nos frères. Dans les versets 16 et 17, c'est le légalisme, c'est-à-dire se placer sous des ordonnances qui ne sont pas nécessairement strictement celles de la loi, mais qui en fait réduisent notre liberté quant à Christ. Le manger, le boire, le jour de fête, la nouvelle lune, les sabbats, quand on pense à ce qui est dans l'église officielle, au fond, le joug sous lequel on place les armes. C'est exactement ces versets 16 et 17. Ensuite, le mysticisme, c'est-à-dire donner la prérogative aux pensées et aux sentiments en dehors des faits réels du christianisme. Se mettre à rêver, on en arrive facilement au culte des anges, et bien des autres choses qui sont des rêveries de la pensée humaine. On retrouve d'ailleurs souvent des dangers du gnostisme. Le gnostisme est un danger aujourd'hui qui est beaucoup plus réel que nous sommes prêts à le supposer. Enfin, dans les versets 18
à 19. C'est donc le mysticisme, et enfin c'est l'ascétisme. Toute tendance à nous placer sous un contrôle de soi-même qui n'est pas celui que Christ veut pour nous, en fait, est également un danger. Réduit notre liberté dans le Christ. C'est le principe monacal. C'est une immense misère morale. Ceux qui veulent échapper au monde, en se séparant physiquement du monde, on se retrouve quand même qu'avec soi-même, et on n'est pas libéré. C'est Christ qui nous libère. Et qui nous met place, qui nous laisse dans ce monde, il ne nous a pas sortis du monde. Il a demandé au Père de nous garder du mal et de nous garder du monde. Non pas de nous sortir du monde comme un joyau dans un écrin fermé. Il nous laisse pour vivre comme des hommes, sainteté de corps et d'esprit.
On pourrait répondre à la parole contradiction du 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je sois moi-même réprouvé.
Nous verrons dans les fruits de l'esprit, le dernier fruit est dit la tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi. Il y a pour le croyant une discipline personnelle. Vigilance, ne pas donner au corps tout ce qu'il désire. Il donne l'exemple des athlètes qui vivent de régime. Je combats mon combattant l'air, mais je mortifie mon cœur et je la servis de peur qu'avoir péché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. D'un côté, l'Esprit de Dieu opère en nous, la grâce de Dieu nous donne tout, mais nous avons à exercer une vigilance et une discipline personnelle dans la marche. Alors, ça ne se contredit pas. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous dites, dans mon avis, que la puissance de l'esprit qui nous libère, mais il y a aussi une discipline personnelle, une vigilance, prends garde, pour être face à nos études, veillez, prenez garde, etc. Pour marcher d'une manière qui glorifie le Seigneur. Mais le motif de cette discipline personnelle, c'est l'amour pour le Seigneur. On a tout à l'heure comparé la loi et la grâce. La loi dit tu aimeras, Seigneur, un autre, tu aimeras. Jean, la première épître de Jean, dit en ceci est l'amour, en ce que lui a donné sa vie pour nous, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est l'amour, c'est pas l'amour. Mais ça vient de l'intérieur. Mais ça n'exclut pas, si je comprends bien le passage de la Corinthienne, une discipline, une vigilance personnelle. Non pas imposée aux autres, non pas que quelqu'un m'impose, mais je prends garde, je veille à ce qui peut être une tentation, ce qui peut être une occasion de chute. Je vois telle publication, tel journal illustré, pornographique ou autre. En moi, il y a la chair, je l'aimerais l'acheter. Non, la discipline personnelle, très bien. Et on demande au Seigneur de le garder. Mais il y a aussi cette vigilance pour ne pas se laisser entraîner. Un camarade de travail m'invite à, tu sais, on a une fête ce soir, tu pourrais bien venir avec nous. C'est mondain. Eh bien, je demande au Seigneur de me donner le pouvoir de dire non. Mais il y a aussi cette discipline personnelle que je n'irai pas à ta fête. Je ne sais pas si c'est ça, mais les frères peuvent compléter ou modifier.
Il semble que dans Romains 6, vous avez autrefois livré vos membres comme esclaves à l'impureté, lorsque je marchais dans la chair. Mais maintenant, dit Paul, nous citons donc Romains 6, verset 19, mais maintenant, c'est un maintenant très important aussi de l'Épître pour Romains, ainsi livré maintenant, aujourd'hui,
sur ce nouveau terrain où la grâce vous place, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté, sans qu'il y ait nullement la question d'asservissement légal. Mais comme mes membres étaient au service de la chair autrefois, eh bien, je les mets aujourd'hui, j'ai la capacité de les mettre au service de la justice. Retenons qu'il n'est jamais dit aux croyants de mourir. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Nous n'avons pas assez de force morale en nous pour nous contraindre, pour contraindre le moi à demeurer dans la mort. Ce n'est pas cela que Dieu dit. Mais Dieu dit, vous êtes mort. Alors, tenez-vous vous-même pour mort au péché. Je n'ai pas vu le Seigneur Jésus mourir sur la croix pour effacer mes fautes et pour mes péchés. Mais je le crois. Je le crois par la foi. Et j'en connais les résultats heureux, bienfaisants, éternels. De la même manière, je crois que je suis mort avec Christ. Je n'ai pas vu le Seigneur mourir sur la croix. Je le crois. Et de la même manière, croyant ceci, sachant ceci, que vous êtes mort avec Christ, afin que, c'est la conséquence, le corps du péché, l'arbre qui produit les mauvais fruits, soit annulé et que nous ne servions plus cet ancien maître qui nous dominait, qui dompte tous les hommes, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Alors, l'apôtre dit, mortifiez donc vos membres, non pas, vous devez mourir, mais pas la force de me faire mourir, mais mortifiez, tenez dans la mort, nécrosez vos membres, nous citons Colossiens 3, bien connu, qui sont sur la terre, les membres moraux, ce qui est lié aux impulsions de la chair en moi, dont il vient d'être fait mention, et le premier terme, on voit que Dieu nous connaît bien, mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté et tout ce qui est donné par la suite. Encore un mot, chers amis, il y a dans cette épître aux Galates quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas une affaire banale que de se replacer sous le joug de la loi. Paul en tire des conséquences tout à fait inattendues et qui dépassent de loin ce que nous aurions pu penser. Voyons cela dans le chapitre 4, seulement un mot sur ce verset de... Nous voulons souligner en passant dans le chapitre 4, au verset 8, il s'agit bien de croyants dans tous les gentils. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous n'aviez pas de relation avec Dieu. Vous étiez, dit-il au verset 8, asservis à ceux qui par leur nature ne sont pas Dieu. C'est-à-dire, vous étiez idolâtres, vous serviez des idoles. Dieu, avec la note comme elle est donnée au bas de la page, vous serviez ceux qui par nature ne sont pas Dieu, c'est-à-dire les idoles. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, tout est de Dieu par sa grâce, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore des recherches ou de nouveau être asservis? Autrement dit, Paul dit, vous étiez autrefois servis au culte idolâtre, et en vous replaçant sous la loi, c'est le même principe, vous retournez à nouveau, JND souligne très bien ça dans ses commentaires sur cette épître, vous retournez, en vous plaçant sous le joug de la loi, vous retournez après tout sur le même terrain que celui que vous occupiez autrefois dans l'idolâtrie. Vous voyez quelles conséquences absolument sérieuses et qui dépassent peut-être ce que l'on pourrait supposer en se disant, mais après tout, nous ajoutons à la grâce ce qui était donné autrefois de Dieu et cela ne peut que conforter notre marche chrétienne. Mais nous retournons à ces faibles et misérables éléments auxquels le monde est asservi en pensant aider la grâce, soutenir la grâce, nous la défigurons, nous la mettons de côté entièrement, c'en est fini de tout ce qui est le privilège que Dieu nous donne par grâce.
Nous pourrions dire quelques mots du verset 5.
Nous, par l'esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice.
On a souvent mal compris ce verset.
ce n'est pas que nous espérons la justice, mais c'est ce que la justice espère. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, Romains 5, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés. Nous n'espérons pas la justice. Mais qu'est-ce que la justice espère? Il faut lire dans Jean 15 pour comprendre ce qu'est cette justice. Dans Jean 16. Jean 16 au verset 8. Quand celui-là sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Il convaincra le monde de péché. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est clair. Péché capital, des gens croient, c'est de ne pas croire au Seigneur Jésus. Il convaincra le monde de péché. Il convaincra le monde de justice. Comment est-ce que le monde sera convaincu de justice? Parce que je m'en vais au Père. C'était juste, et c'est juste, que parce que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il a accompli l'œuvre que le Père lui avait donné à faire, c'est juste qu'il s'en aille au Père, qu'il soit élevé dans la gloire. La justice envers Christ, c'est d'être élevé dans la gloire. La justice envers le croyant, Dieu est juste envers Christ, mais il justifie celui qui est la foi de Jésus. Et ce que nous espérons, c'est la gloire. C'est comme le Seigneur Jésus, d'être élevé auprès du Père. La justice que nous possédons par l'œuvre de Christ, son espérance, c'est d'être là où Christ est. C'est juste que Christ ait été élevé à la droite de Dieu. C'est juste que le croyant soit élevé dans la gloire. Alors, nous avons par la foi, par l'esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Et on a remarqué que dans ce verset 5 et le suivant, l'apôtre lit de nouveau la foi, l'espérance et l'amour. Et il conclut dans Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont valeur. Que vous soyez juifs, que vous ayez été circoncis, que vous soyez des nations et que vous soyez non circoncis, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi opérante par l'amour. Alors, toi, juif, ne te lamente pas de ce bébé en ta circoncis. Toi, les nations qui n'ont pas été, ne te préoccupe pas de cela. Dans le Christ Jésus, ça n'a pas d'importance. Mais la foi opérante par l'amour. Alors, la foi, par la foi, nous attendons l'espérance de la justice. La justice espère la gloire, mais la foi opère par l'amour, non pas par la crainte d'un jugement, non pas par le mérite que l'on attribuerait à l'obéissance à la loi, mais par l'amour.
Voyons chanter dans le cantique 94, le premier et le quatrième verset. On va chanter debout.